Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Et l'after continue jusqu'à minuit sur RMC, l'after, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout bas. Kevin Diaz est là, Kevin, bien sûr, Jimmy Brown est de retour, Jimmy, l'homme des réseaux sociaux de l'after, 32-16, hashtag RMC Live Direct Studio, il vous attend. Et Daniel Riolo nous rejoint, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Salut Daniel.
4-0 pour le PSG face à Reims, on parlera également des autres matchs du jour. Il y a eu 30 buts rien que sur la journée de dimanche. Là, hein. Donc,
on est reparti après deux semaines de dépression, deux semaines de stress. Là, ça y est, on est bien. Là. On est bien.
Ça me fait penser à l'avis tranché de Florent Gautreau il y a quelques jours qui nous disait que la Ligue 1 hibernait. Tout à coup,
ça n'a pas hiberné longtemps.
Il y a eu un dégel. Voilà, c'est le changement climatique, tout ça. Et hop, pam.
En même temps, toi avec ton équipe, vous avez contribué à ça là.
Ouais, pas faux.
T'es parti à Bordeaux, c'était quoi? C'était porte ouverte.
C'est la seule fois depuis 10 ans que celle, ça n'a pas fait un arrêt.
Vous êtes dit, on va relancer ouais, Bordeaux, parce que c'est des gens sympas.
Mais on en reparlera. J'ai dit, quand il y avait 3-2 pour Bordeaux.
Ah, bah oui.
Je pense que beaucoup de monde s'est dit.
Moi, le premier. Moi, je croyais même qu'ils allaient perdre Bordeaux.
Bah oui.
Même pas que vous alliez revenir à 3-3, mais que vous alliez gagner. Bon,
on en reparlera tout à l'heure parce que il y a pas mal de choses intéressantes dans cette journée de Ligue 1. Donc je disais que Nice avait par ailleurs gagné, c'est important, à Metz 2-0. Donc Montpellier bat Monaco, match de dingue, 3-2. Clermont bat Rennes 2-1, Rennes qui gagne plus. Angers bat 3-2-1 et Nantes bat Lorient 4-2. Puis j'ai un petit résultat italien, Milan Juve ce soir 0-0, ça vient de se terminer. Quant au match Alavés Barça, il y a aussi 0-0, il reste 5 minutes. Voilà, il y a qu'en France qui a des buts, hein, on se régale en Ligue 1. Allez, les 3 points, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel. Hein.
Le plus important, c'est les 3 points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, tes 3 points.
Le premier point, c'est le Paris Saint-Germain qui s'impose dans un match qui a été loin d'être le meilleur, hein, quand même, dans ce week-end de Ligue 1. Mais en tout cas, toujours un Sergio Ramos qui revient bien. On espère maintenant qu'il va pouvoir enfin enchaîner les matchs et enchaîner les bonnes performances. Kylian Mbappé, toujours intéressant, même s'il a quelquefois oublié Icardi. Mais bon, vu qu'Icardi s'oublie lui-même, c'est un peu normal. En deux, bah, c'est les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux qui ne sont pas morts et qui gagnent un match incroyable avec un triplé de Wang, un très beau but de Ellis aussi. Donc c'était vraiment le temps fort de la journée, je trouve. Et ensuite, pour regrouper tout le reste des matchs, on vient d'en parler un peu, mais c'est le spectacle qui était de retour, en tout cas cet après-midi en Ligue 1, et ça fait plaisir.
Daniel.
Le premier point, la victoire propre des Parisiens. C'est pas tous les dimanches qu'on leur fait des compliments et qu'on dit qu'ils font des bons matchs. Moi, je les ai trouvés propres et appliqués. Ça n'a pas toujours été le cas, donc il faut dire quand c'est bien. Deux, j'ai envie de croire à une progression à 3 semaines de l'échéance, comme s'il y avait une prise de conscience et qu'on pouvait faire un peu monter la ligne de récup. Et c'est plutôt pas mal. Avec toutes les questions qui restent en suspens, hein. Ramos, pas Ramos, à deux dans l'axe ou à trois, bah là, visiblement, ça sera à deux, hein. Enfin, bon, on va en reparler. Et puis, troisième point, il y a un peu de tout, un peu le reste du monde de cette Ligue 1, la victoire de Nice, le fait que Saint-Etienne est totalement isolé puisque Bordeaux a gagné maintenant. Mais on va peut-être parler de Rennes et Monaco qui ont perdu et qui finalement laissent, selon moi, un petit trou se faire entre les équipes qui sont sur le podium aujourd'hui. Et je me demande si ce petit trou n'est pas définitif.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on peut peut-être démarrer par. Enfin, on va parler du PSG plus longuement, mais c'est peut-être un tournant là.
Il y a un petit 5 points là quand même. Hein.
Ouais.
Ça peut profiter points à Lyon aussi pour revenir dans la course au moins à l'Europa League.
Oui, d'accord, Kevin. Mais pour ce qui est du podium, aujourd'hui il y a 5 points et les équipes qui sont dernières l'OM. Honnêtement, ça me semble en dessous, parce que sans offenser personne, surtout en Alsace, Strasbourg, ça me semble pas être disposé pour jouer le podium. Rennes, même s'ils ont le meilleur entraîneur de France pour beaucoup d'observateurs, experts français.
4 défaites sur les 5 derniers matchs du championnat.
Oui, mais en attendant, ça fait quand même 7 pages dans France Football avec une leçon tactique. Enfin bon, on en reparlera de ça. Montpellier, je crois pas non plus. Et
par contre, t'as un groupe, on va dire, derrière,
oui,
entre deux Strasbourg
ouvert
à Lyon.
Oui, mais dans ce groupe-là, Kevin, laisse le groupe Eto'o. Gilbert, il a suivi le Tour de France.
Le groupe Eto'o, c'est les mecs du fond.
C'est
le maintien,
le groupe Eto'o. Voilà.
Voilà.
Okay. ce qu'il faudrait faire dans le petit groupe derrière, là, c'est distinguer les équipes qui peuvent prétendre. Et Strasbourg, Rennes, Montpellier, je crois pas. Donc il faut aller peut-être chercher un peu. Non.
Bah, Monaco, Lens, Lille et Lyon.
Monaco,
quoi.
Lille, Lyon, c'est loin.
Sachant que Lyon, t'as un match en retard.
Ouais, Lyon, t'as un match en retard. Hein. Lyon, ils peuvent revenir au niveau de Montpellier et Rennes.
Ouais, pour le podium.
Non, pour s'ils gagnent le match en retard, ils reviennent à la cinquième place avec Rennes.
Ouais, mais tu aujourd'hui 33.
Ah non, mais je suis d'accord.
Marseille,
de toute façon, pour le podium, ça sent Marseille
ont,
en plus.
Ils ont 7 points.
Marseille en plus un match en moins.
Plus le match en moins.
Imaginez que Lyon, ils ont une différence de but de plus 2.
Ouais.
Honnêtement, vous avez vu jouer Lyon. Vous avez vu jouer Lyon ce vendredi. Vous avez vu Marseille.
Ah non, mais dans le jeu, il y a un écart énorme.
Lyon, il y a zéro progression, quoi. Donc.
Et on va encore nous reprocher, Daniel, de pas parler de Nice. C'est Nice qui est deuxième. Nice qui a 7 points maintenant sur le quatrième.
En plus, Nice commence à s'affirmer. Là, ça commence à tourner. Tout semble en place. Non, j'ai l'impression que ce petit trou là, il est fait maintenant.
Alors, le PSG, on y va. Tiens, on va démarrer avec Pierre-Antoine, qui est là avec nous au 32-16. Pierre-Antoine, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Kevin, bonsoir Daniel, bonsoir Dimitri.
Bon, t'as pas tremblé, mais t'as peut-être tremblé un petit peu quand même au début, là, parce que Reims a fait quelques trucs sympas.
Oui, j'ai trembloté, on va dire. J'ai plutôt sombré un peu, puisque j'ai cru que Paris allait nous offrir un match ennuyant, comme souvent, ou ennuyeux plutôt, pour être précis. Et je me suis demandé finalement, après le premier but de Marco, si Paris n'avait pas trouvé le petit bouton de Daniel Riolo, le fameux bouton sur lequel ils appuient et qui passe en mode Ligue des Champions. Parce qu'on n'avait pas vu une victoire 4-0.
L'interrupteur.
Le fameux interrupteur de Daniel, pardon. Ouais. Puisqu'on n'avait pas vu une victoire 4-0 depuis un match contre Clermont en novembre. Et je pense que c'est à noter dans le marasme un peu du jeu parisien ces derniers temps. Voilà, on enchaîne les victoires et on met un 4-0 qui finalement est pas anodin, je pense. Je rejoins Daniel là-dessus et je sais pas si je déforme tes propos, Kevin, mais j'ai cru comprendre que tu disais que le match était pas génial. Je dirais que la première mi-temps ne l'était pas, mais pas pendant 40 minutes.
Je t'invite juste à écouter le podcast à la mi-temps demain ou ce soir. Et on avait Yacine, un auditeur parisien, qui était catastrophé par la première mi-temps du Paris Saint-Germain.
Première mi-temps.
C'est pour ça que après en deuxième mi-temps, il faut dire que le Paris Saint-Germain a fait le travail, bien sûr. Mais j'ai pas compris les changements de Oscar Garcia, qui a complètement déstabilisé son équipe avec deux changements, avec un troisième changement de poste, puisque l'arrière droit est passé à gauche, etc. Donc là, les Rémois n'ont absolument rien fait, mais j'ai trouvé une première mi-temps qui au final était assez équilibrée. Et le but de Verratti, il arrive un peu au final contre le cours du jeu, parce qu'il y a eu aussi 2-3 belles opportunités pour les Rémois. Par contre, c'est vrai qu'en deuxième période, ils ont déroulé avec notamment un bon Nuno Mendes sur le côté, un Mbappé toujours actif, même si bon, 2-3 fois il a oublié Mauro Icardi.
Daniel, pour la première passe de Mbappé à Icardi, je pense qu'il faut quand même en parler de ça.
Après attention, parce que moi je suis d'accord avec Daniel, j'ai lu ton tweet, ok, c'est vrai qu'il oublie un peu Icardi, mais franchement Daniel, moi si je joue avec Icardi demain, je fais un five, je lui donne pas le ballon. Le gars, ça fait partie des mecs qui sont dans ton équipe, mais t'as pas. En fait, dès que l'entraîneur donne le chasuble à Icardi, tu baisses la tête et tu dis oh non, pas lui. Non,
mais d'accord, mais
Icardi est seul, c'est pas normal.
Je comprends ce que tu veux dire, Kevin, mais à un moment tu joues avec lui, tu peux pas t'obstiner à essayer d'enrouler deux frappes. Allez, on va pas dire les deux,
d'accord.
Mais il y en a une, il lui donne un ballon propre, ça y a buté, on en parle plus. C'est juste que pour respecter le gars avec qui t'es. C'est juste, tu vois, tu donnes lui le bonbon, quoi. Il est en galère.
Mais t'as vu, il y a un moment, pour le coup, Nuno Mendes, il lui donne un bonbon, Daniel, à la fin. Il lui donne un bonbon, il fait une tête sur sa main.
Non, mais
c'est dingue, il est tout seul.
Bon, d'accord, mais il est sur le terrain, qu'est-ce que tu fais? Tu l'ignores?
Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faudrait peut-être
plus. Mais toi, t'as déjà fait ça dans ta carrière? Genre, t'ignores un mec?
Non, mais il y a un moment, je comprends même plus pourquoi il est sur le terrain, et je pense qu'Mbappé le comprend pas non plus, c'est ça le problème.
Mbappé lui en donne une à 20 minutes de la fin, qu'il perd son face-à-face sur Ajkovic aussi à ce moment-là.
Bon, bah, donc les gars, vous dites qu'un mec est sur le terrain, mais on l'ignore, on lui file pas la balle.
Ah, non, moi je dis juste qu'il s'est rattrapé en deuxième période. Mbappé, je pense qu'il a senti qu'effectivement, il l'avait ignoré en première, il a voulu lui donner sur la deuxième période. Malheureusement pour Icardi, ça a pas fait but sur cette occasion-là.
Gros geste d'énervement d'Icardi d'ailleurs.
En première période.
En première mi-temps sur Mbappé.
Et on peut reprocher beaucoup de choses à Icardi, mais je trouve qu'en termes d'investissement physique, il est quand même bien mieux. Et il descend ce qu'il faisait pas avant. Donc je trouve que même si effectivement on peut lui reprocher son déficit technique en ce moment, j'oublie pas ce qu'il a fait à l'Inter quand même, qui était relativement très fort. Et il a quand même une débauche physique qu'il n'avait pas avant. Et ça, ça m'embête un peu de ne pas le servir.
Franchement, Pierre-Antoine, je vois ce que tu veux dire dans le sens où oui, il fait semblant de courir, mais aujourd'hui c'est pas un joueur de foot de haut niveau aujourd'hui, Icardi, ni avec ni sans le ballon.
C'est pas un joueur du niveau du PSG.
Voilà, il peut pas jouer au PSG aujourd'hui, en tout cas. Maintenant, comme dit Daniel, il est là, ok. S'il est là, on peut lui donner le ballon.
C'est juste ça. Comme il était là, je trouve que ça servait à rien d'ignorer. Tu lui fais plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, il joue. Visiblement, s'il joue, c'est parce qu'il y a des absents. Bon, écoute, c'est le choix. Voilà, c'est anecdotique après tout. Il a pas voulu lui donner. C'est pas non plus l'affaire de la soirée, quoi. On va pas y passer la nuit.
Pierre-Antoine, autre chose?
Oui, deux petits points et un sur lequel je vous laisserai débattre et je vous embête plus. Moi, les transversales de Ramos, voilà, ça me procure énormément de plaisir. Je resterai poli, mais c'est magnifique. Le petit doublé de Verratti, voilà, notre chouchou. Je parlerai pas de niveau ni de blessure, juste humainement, ça reste un chouchou. Voilà, des supporters du PSG, ça fait plaisir de voir ça.
Et techniquement, ce n'est pas un doublé, mais.
Oui, on est d'accord que c'est touché deux fois, mais on va dire qu'en tout cas, juridiquement, ça en est un. Et par contre, voilà, moi je me demande toujours à 3 semaines du Real, comment on va jouer, parce que toujours pas de 3-5-2 ce soir. Moi je comprends pas.
Ça c'est la question. Alors on peut en parler maintenant. Reste avec nous Pierre-Antoine deux secondes. On va en parler maintenant. On a fantasmé. Je me souviens de débat cette semaine où on disait le 3-5-2, ça va être comme ça que ça va jouer, ça va être comme ça. Mais finalement à chaque fois qu'on disait ça, on soulignait derrière que s'il avait vraiment voulu l'essayer, même quand Ramos n'était pas là, il l'aurait essayé, que ce soit avec Kerrer, que ce soit avec Diallo. Et ce soir, il a l'occasion de mettre les trois et il le fait pas. Et il fait une défense à deux avec Marquinhos et Ramos. Si jamais contre le Real il arrive et où il aligne 3 dans l'axe et 2 dans le couloir, ça a plus rien y comprendre.
Parce qu'il va nous faire une Laurent Blanc,
tu le fais pas. Donc clairement tu vas le sortir au dernier moment. Non, donc clairement il veut jouer à 2 dans l'axe. Donc en plus il va se taper une complication. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse un choix, parce que si Ramos revient à un bon niveau. Après, il va falloir savoir. En fait, le problème, c'est qu'on n'aura jamais de référence réelle sur Ramos, parce qu'il y a longtemps qu'il a pas joué contre des bonnes équipes, où il faut qu'il défende, il faut pas simplement qu'il intercepte et qu'il relance.
Match contre Nice la semaine prochaine, ça monte.
Ouais,
un peu,
mais bon, il y a une différence entre jouer sur ton placement, être habile dans la relance, tout ce qu'il sait faire, c'est un crack, et être un peu sous pression, avoir des bons attaques en face à toi, devoir te retourner, courir. Ça, on ne sait pas. Si ça fait plus d'un an maintenant qu'il fait plus ça, donc est-ce qu'il peut encore? Donc il y a plein d'interrogations. Donc tu prends le risque de te dire Kimpembe qui est un historique, je le dégage, je mets cette défense là. Moi je trouve que tout ça est très très hasardeux, mais bon.
Moi ma théorie, Daniel, c'est que pour avoir quand même longtemps suivi Mauricio Pochettino, notamment en Angleterre, dans un premier temps à Southampton puis à Tottenham, moi je crois que ce n'est pas un système qu'il aime, le 3-5-2.
Oui, je sais.
Je pense que le 3-5-2, le 3-4-3, la défense à 3, ce n'est pas un système qu'il maîtrise peut-être aussi, parce qu'il y a des entraîneurs qui auront l'honnêteté de te dire que ça fait des années qu'ils jouent en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, ils ont les automatismes, ils ont la méthodologie pour le travailler à l'entraînement, mais défendre à 3, c'est un tout autre système, c'est une autre façon de jouer. Et peut-être qu'il a l'humilité de se dire, moi, c'est pas un système que je maîtrise. Peut-être que j'ai des joueurs qui seraient à l'aise dans ce système, mais ce n'est pas le mien. Je préfère jouer avec le système auquel je suis habitué. Je sais aussi que la qualité d'un entraîneur, c'est l'adaptation, notamment aux qualités de son effectif. Mais peut-être que c'est pas ce que pense Pochettino, ou il va nous surprendre.
Après, c'est quoi la meilleure défense centrale intrinsèquement? Marquinhos Ramos.
Non mais ça, si on parle du Ramos 2018, il y a pas photo, puisque on parle d'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot. Et le problème, c'est que de ne pas savoir s'il est capable d'être à ce niveau de performance, parce que ça fait très longtemps qu'il joue plus. L'année dernière, il a quasiment pas joué. On sait pas tout ça. C'est ça qu'on sait pas. C'est une inconnue qui est incroyable. C'est incroyable.
Surtout, ce qui est en plus un peu triste, c'est que finalement, on voit que Kerrer fait de bonnes prestations en ce moment, encore ce soir, je trouve. Et finalement, l'essayer dans un système à trois, en attendant effectivement que Ramos ait son niveau parfait, capable de
enchaîner les matchs à 90
minutes, ça aurait été bien. Kevin a raison aussi.
Ce 3-5-2, on n'arrête pas d'en parler. Honnêtement, si jamais il avait voulu le mettre en place, il l'aurait fait depuis 1000 ans. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il a les latéraux pour le faire.
Daniel attend Hakimi.
Il aurait pu le faire avant.
Il pouvait le faire avec Hakimi, il pouvait le faire avec Kerrer ou avec Diallo, même avant.
Non, mais il n'avait pas Ramos. Je ne sais pas.
Ce qui me déçoit un peu, c'est autant, je comprends tout à fait ce que Kevin, et je suis assez d'accord de dire que s'il ne se sent pas à l'aise, il ne le fait pas, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire que c'est un entraîneur de haut niveau. Si tu ne si savais même pas de travailler à l'entraînement, je trouve qu'en qualité d'adaptation, c'est très léger. Voilà. Qu'il ne soit pas à l'aise et qu'il ne le tente pas, ok, mais à un moment donné, il est au Paris Saint-Germain, il a la matière pour le faire. C'est un truc qui peut lui permettre en plus de gérer ses attaquants sans avoir à trouver d'excuses. Moi, je trouve ça dommage, quoi qu'il en soit.
Ben, en vue du Real, la question sera aussi ce que tu fais d'Icardi quand même.
Apparemment, il y a peu de doute, je pense, sur le fait qu'il démarre pas.
Il est sur le banc, et puis ouais. Voilà, qu'est-ce que tu vas en faire?
Juste pour un petit bémol sur ce que vous disiez sur Pochettino et ce système-là, j'ai sous les yeux quelques matchs, notamment lors de sa finale, l'année de sa finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Les deux matchs de huitième de finale, il joue à trois derrière contre Dortmund. Il joue aussi à trois derrière quand il bat le Real en phase de poule. Il l'a quand même utilisé. Il y a un match de championnat aussi contre Liverpool. Il gagne 4-1. Ils sont à trois derrière. Il y a un 6-1 à l'extérieur, à Leicester. Un gros match aussi. Il l'a utilisé quelques fois. Ça a pu fonctionner
c'est
aussi.
C'est occasionnel. Là, oui. C'est peut-être même pas 3% des matchs qu'il a joué avec Tottenham.
Ou alors Kevin, on est dans un football aujourd'hui où il estime que ce qu'il prépare à l'entraînement
peut-être aussi voilà ça
suffit. Et il estime qu'il a des mecs qui sont assez mûrs tactiquement pour s'adapter même au dernier moment et aussi. Que même si nous on l'a pas vu, on n'est pas là pour assister, je veux dire, aux préparatifs et que peut-être il le sort au dernier moment et que ce sera comme ça et puis
oui,
voilà.
Non mais ça c'est une possibilité,
que ça peut
Daniel.
Être aussi une préparation, que ça peut aussi être une préparation de le faire jouer à deux pour l'instant Ramos, parce que comme ça il court un peu plus, ouais. Et il est plus dans le duel aussi et ça peut le chauffer plus.
C'est une possibilité
maintenant.
Je
pense qu'il faut rien exclure.
En sachant Daniel aussi qu'il pourra pas se roder avec Marquinhos qui part avec le Brésil, là il aura peu d'occasion de jouer avec Marquinhos.
Aujourd'hui c'était une des rares fois où il pouvait le faire, on va dire 90 minutes. Maintenant, ce que tu dis, Daniel, bien sûr, c'est une possibilité, mais il sait aussi comment marche le football de haut niveau et les analyses. Si il se crache en 3-5-2 contre le Real, tout le monde lui dira pourquoi tu l'avais pas fait avant. Peut-être qu'il s'en fiche, mais.
C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les équipes doivent être capables de s'adapter, les joueurs doivent être capables de s'adapter, même au dernier moment.
Ouais, un système Kimpembe, notamment
il,
à 3.
Il joue en équipe de France dans ce système. Regarde les Bleus, à quelle vitesse ils ont tout changé. Alors que Deschamps avait toujours été réfractaire à ce genre de choses.
Ouais, mais sur le match couperet,
ils se sont adaptés en deux secondes. Hein. Tout le monde s'adapte aujourd'hui.
Non, sur le match couperet contre la Suisse, ils se sont crachés.
On parle plus de la Ligue des Nations, je pense, Daniel.
Ah, et ok, après. Deux mois après, ils ont réussi. Voilà. C'est pas ça qui a fait qu'ils se sont crachés, honnêtement. Contre la Suisse, ils se crachent pas à cause de ça. Il y a un dilettantisme à un moment. Il y a mille raisons dans cette équipe au-delà du système de jeu. Je crois pas que les systèmes de jeu soient si essentiels à notre époque dans le foot d'aujourd'hui.
Je pense pas que des professionnels, même tout professionnels qui sont, tout le talent qu'ils peuvent avoir, un système ça se travaille. Un système ça se travaille un minimum à l'entraînement. Après tu peux avoir un système hybride.
Peut-être que ça se bosse à l'entraînement et qu'on le voit
peut-être
pas en match.
Ça se bosse.
Ouais, mais ça se travaille à l'entraînement et ça se voit en match.
Peut-être qu'il le voit. Et puis t'es pas dans un football, le football que t'es en train de décrire, c'est un football façon Ajax, Atalanta, des systèmes. Aujourd'hui, le PSG, ils jouent jamais et ils joueront jamais comme ça. C'est pas un système comme ça. C'est pas un système de jeu huilé, de tactique et tout. C'est un système de bloc, d'être capable de monter ta ligne de récup, d'exploiter vite le ballon quand tu l'as. C'est un football fait plus de percussions, d'individualité qui vont faire la diff. Donc moi, je dis que tu peux l'adapter au dernier moment.
Je remercie Pierre-Antoine au 32-16. Pierre-Antoine, merci beaucoup.
Merci beaucoup, messieurs. Puisque je ne vous avais pas eu jusque-là, une excellente année 2022. À bientôt.
Et bah, toi aussi. Salut, Pierre-Antoine.
Merci.
Salut. Info quand même. Alors, on aura Fred Hermel demain soir dans l'after, mais Benzema est sorti du match du Real aujourd'hui blessé à la cuisse. Et on sait qu'il a déjà été blessé à la cuisse récemment, Karim Benzema. Donc,
Est-ce que Roland a vu l'action?
Ah, docteur Courbis, non, j'ai pas eu d'infos là. Je sais pas, Jimmy, peut-être tu l'as eu.
Non, j'ai pas eu le doc.
Roland, hein. Roland, comment ça s'est passé, comment il est sorti et tout. Il se trompe jamais. Hein.
En général, il est pas mal, c'est vrai. Et le Real n'a pas été capable de battre Elche. Il y a eu 2-2 aujourd'hui. Et Benzema a même raté un péno. Donc voilà, sale journée pour lui. Mais c'est vrai que maintenant, on va surveiller de près parce que blessure à la cuisse, lésion quelconque, 3 semaines, bon, bah.
Ça va vite arriver, le match
peut ne pas suffire.
C'est limite.
Voilà,
3 semaines, c'est limite.
Docteur Diaz ?
En fonction du grade. Il peut y avoir un grade 1, grade 2 ou 3.
Bon. Et je vous donne les informations de Fred Hermel tout de même. Échographie, car douleur derrière la cuisse gauche. Il s'est arrêté lui-même par précaution. Et au Real, on n'est pas trop inquiet, nous fait savoir Fred Hermel. Oh, la vieille intox. Alors. Eh oui, la vieille intox,
bah,
là.
C'est 10 jours minimum. Bien, alors.
Bon, dans quelques instants, on revient sur le match du PSG face à Reims. Et puis, on parlera des autres rencontres du jour, bien sûr. Il y aura l'évaluation. Un mot de la CAN également avec la première surprise, l'élimination du Nigeria. C'est dans l'heure à venir de la
surprise. Oussam l'avait dit, hein, que la Tunisie irait loin.
Bah non, il a dit l'inverse, lui.
Ah bon, d'accord.
Allez, allez, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot.